Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir dans les studios de Fréquence Mistral Charlotte. Charlotte est médecin en réanimation et elle est partie faire une mission de plusieurs mois à Mayotte. Donc vous vous en doutez, elle s'est retrouvée au cœur du cyclone, si je peux dire. Elle s'est retrouvée sur l'île pendant la catastrophe qui a eu lieu il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on en parle un peu moins dans les médias, mais ça reste quelque chose d'actualité puisque des milliers de personnes sont encore en train de souffrir des conséquences de cet ouragan. Bonjour et bienvenue à toi, Charlotte.
Bonjour.
Bienvenue chez Fréquence Mistral. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu étais partie faire à Mayotte en tant que médecin en réanimation ?
Alors oui, moi je suis partie en mission pour quelques mois à Mayotte pour travailler dans le service de réanimation de l'hôpital de Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte, entre guillemets.
Est-ce que déjà, en tant que médecin, sur le premier regard que tu as eu sur cet hôpital, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des différences entre l'hôpital à Mamoudzou et celui, par exemple, où tu officiais auparavant, à Marseille, Lyon ou ailleurs ?
Oui, tout à fait. À Mamoudzou, l'hôpital est complètement différent que ce qu'on retrouve en métropole, notamment en termes de moyens. Et tout est plus difficilement accessible, c'est-à-dire que si on a besoin d'une chirurgie particulière, je pense notamment à la chirurgie cardiaque ou la neurochirurgie, ça n'existe pas sur l'île, donc il faut pouvoir se débrouiller sans quand on est sur place, sachant que l'hôpital le plus proche qui possède ces infrastructures, c'est La Réunion, donc c'est 2 heures d'avion.
Ah oui, sachant que c'est les 30 premières minutes qui sont très importantes.
Hein, voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de situations d'urgence qui sont très difficiles à gérer. Il faut faire avec, c'est un peu de la médecine
particulière. Oui, mais j'imagine qu'on fait avec, mais on peut même ne pas faire, parce que, alors, je me permets de le préciser, j'ai quelques connaissances, puisque j'ai plusieurs personnes de ma famille qui ont été touchées, mais une ECMO, par exemple, quand on a une machine qui vient prendre le relais du cœur en cas de crise cardiaque, ça ne peut pas tenir pendant des heures et des heures dans un avion où ça marche, ça fonctionne quand même ?
Alors voilà, si justement l'ECMO, c'est quelque chose qu'on faisait à Mayotte, parce que c'était les réanimateurs qui posaient l'ECMO, donc la circulation extracorporelle qui prend le relais du cœur, comme tu disais Yacine. Et on transportait les patients ensuite jusqu'à La Réunion en avion avec leur ECMO.
Ok, d'accord, donc ouais. Donc c'est quand même sportif, j'imagine, pour les patients qui se retrouvent là-bas. Donc il y avait déjà une situation, entre guillemets, qui était moins bonne. Et puis l'ouragan ou le cyclone, je ne sais pas comment on l'appelle du coup à la Mayotte.
Nous, on a parlé de cyclone, Chido. Ouais.
Ouais. Donc le cyclone qui est arrivé sur l'île, qui l'a frappé de plein fouet. Toi, tu étais où quand ça est arrivé ?
Alors moi, j'étais chez moi, puisqu'on a eu l'alerte cyclonique... Très tardivement par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que le cyclone est survenu samedi dans la journée et on a commencé à vraiment s'inquiéter le vendredi matin où on a été prévenu qu'il allait y avoir un cyclone qui allait arriver sur l'île. Avant ça, on pensait à une petite dépression, un peu de pluie, mais rien de plus. Donc on s'est mis en alerte le vendredi et le vendredi, on a décidé d'un plan de bataille en imaginant des coupures d'électricité, en imaginant des coupures d'eau et un potentiel afflux massif de patients. Donc on avait réparti notre personnel de réanimation en 2 équipes, une équipe cyclone. Donc cette équipe-là était censée rester à l'hôpital pendant toute l'alerte rouge, parce que pendant la période de l'alerte rouge, on ne peut pas sortir de l'endroit où on est. Donc on avait prévu un roulement au cas où ça dure plus de 24 ou 48 heures. Pour que les gens puissent se reposer et se relayer. Et il y avait une équipe post-cyclone dont je faisais partie, qui étaient ceux qui devaient aller vers l'hôpital dès que l'alerte rouge était levée. Quand bien même, ils ne recevaient pas de message puisqu'on imaginait que les réseaux seraient coupés. Et pour relayer les collègues qui étaient sur place pendant le cyclone et faire face à l'afflux massif de patients qu'on imaginait.
Et donc, ça s'est passé comme vous l'imaginiez ?
Ça ne s'est pas passé comme on l'imaginait. Le cyclone a été beaucoup plus fort que ce qu'on attendait. Nous, on pensait à un peu de coupure de courant, voilà, de la coupure du réseau téléphonique, mais on pensait pas à des destructions matérielles telles qu'on a eues. Donc l'alerte rouge a duré finalement un peu moins longtemps que ce qui était prévu. En fait, elle a duré samedi sur la journée, et c'est tout, et pas 24-48 heures. Et donc, comme l'hôpital a été aussi touché sur le plan matériel et sur le plan des infrastructures, en fait, rapidement, l'équipe post-cyclone dont je faisais partie s'est rendu à l'hôpital pour relayer les équipes sur place.
Ouais, c'est que vous avez dû faire donc face à la destruction d'une partie de l'hôpital ou...
La destruction d'une partie de l'hôpital, la destruction de nos propres logements aussi pour ceux qui étaient chez eux.
Okay.
Donc il y a eu une sorte de mouvement un peu de panique et d'afflux vers l'hôpital puisque c'était un peu le seul refuge qu'on imaginait quand on était chez nous.
Ah oui, ok. Et toi, personnellement, ton logement a été touché ou...
Mon logement a été touché, comme le logement de la majorité de mes collègues. Je connais beaucoup de collègues qui ont perdu leur maison entièrement, qui a été détruite et puis pillée dans les suites.
Ah oui.
Beaucoup, beaucoup de personnes ont perdu leur logement, la majorité des gens, en fait.
Ok. Donc, plus de logement, on se retrouve donc à l'hôpital. Et donc, l'urgence immédiate, c'est quoi en termes de santé, en tout cas de santé des populations?
On s'attendait à un afflux massif de patients qu'on n'a pas eu. D'une part, parce qu'en fait, les gens ne pouvaient pas accéder à l'hôpital. Toutes les routes étaient détruites, recouvertes par des arbres, par des bâtiments effondrés. Le réseau d'électricité était également chaos et le réseau téléphonique aussi, on n'avait pas de contact avec le reste de l'île. Donc finalement les gens n'ont pas pu se rendre à l'hôpital, donc les 24 premières heures post-cyclone ont été plutôt calmes sur le plan de l'afflux de patients, en tout cas de patients liés au cyclone. On a eu quelques petits blessés mais rien de bien particulier et dans les dispensaires, puisqu'il y avait des équipes qui étaient réparties dans les dispensaires plus dans le sud de l'île, ils avaient de toute façon interdiction de faire des prises en charge trop invasives de type mettre les gens sous ventilation artificielle ou faire des chirurgies qui nécessitaient une place ensuite en réanimation, puisqu'on pouvait plus transporter les patients et que nous, ouais, on n'avait plus de place dans les services d'aval. Donc pendant 48 heures, il n'y a pas eu d'intervention lourde, en tout cas dans mon domaine de la réanimation.
Ok, donc il y a une forme de calme. Et ensuite, j'imagine qu'une fois que les routes ou en tout cas les gens ont pu accéder à l'hôpital, vous avez eu d'un coup un afflux de patients ou là aussi, ils sont restés chez eux?
En fait, pas tellement. Je pense que beaucoup de gens... Après, c'est lié aussi à la population de Mayotte. C'est mon interprétation personnelle. Hein, il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans des bangas, donc des bidonvilles, qui probablement se sont un peu auto-soignés là-bas. C'était très long avant de rétablir le réseau routier. Et puis, il y a probablement aussi beaucoup de gens qui ont eu des blessures tellement graves qu'elles n'ont jamais pu être prises en charge. En tout cas, au-delà de 24-48 heures, probablement... un certain nombre de personnes qui n'ont jamais pu accéder à l'hôpital, mais ça, malheureusement, on n'a pas les données.
Oui, alors ça, c'est une question, justement, que je te pose. Je n'attends pas de réponse parce que le Premier ministre lui-même n'a pas su en donner, mais aujourd'hui, on n'a pas de retour sur le nombre de morts. Je sais que pour beaucoup, c'est vrai que c'est un peu le décompte funèbre, mais on a besoin d'avoir une idée de la catastrophe. Et c'est vrai qu'on nous a annoncé 30 morts, puis ensuite, on nous a annoncé 50 000, puis après, on nous a dit non, ce ne sera pas vraiment, c'est des milliers, mais on ne sait pas. Il se passe quoi avec... ils sont où, les gens, en fait?
Je pense qu'on saura... jamais vraiment, à moins que quelqu'un prenne le temps d'aller dans tous les bangas pour demander aux gens s'ils ont perdu un proche, un voisin. C'est une grande partie de la population de Mayotte est comorienne ou africaine, en tout cas, et n'a pas de papier, ouais. Donc n'a pas d'existence, en tout cas, dans les registres. Donc pas d'état civil, pas de déclaration de décès. Mmh. Et tant qu'on ne prendra pas le temps d'aller voir dans les bangas et de demander qui a disparu, on ne saura jamais combien de personnes ont disparu. Après, des témoignages qu'on recueillait, nous, des gens qui venaient de là-bas, les gens nous ont dit que voilà, y a eu des corps enterrés, et ce, dans les 24 heures, puisque Mayotte est de confession musulmane, oui, en majorité. Et donc, c'est comme ça que ça,
oui,
se fait traditionnellement.
Religion, c'est dans les 24 heures que le corps doit être enterré. Donc, il n'y a, oui, pas le temps de, on va dire, de laisser le temps de décompte.
C'est ça.
Ok. Donc, toi, en tant que médecin, tu t'es retrouvé dans une situation, on va dire, d'après-cataclysme. Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Ou en tout cas, si tu devais en tirer une leçon, qu'est-ce que ça serait?
Ce qui a été très difficile, c'est de faire avec le manque de moyens. On n'avait même plus d'électricité. En tout cas, on avait encore un réseau électrique de sécurité avec des prises sécurisées, mais qui étaient très peu nombreuses. On faisait de la médecine avec des lampes de poche frontales. On n'avait plus de produits sanguins labiles, plus de sang, plus de plaquettes, donc pas de transfusion possible. Tout notre matériel stérile avait été mouillé, donc n'était plus stérile. On ne pouvait plus opérer. on pouvait plus rien faire, on n'avait plus de matériel électronique, donc plus de scope, plus de surveillance des patients et plus d'informatique. Et donc, par exemple, normalement, quand un patient arrive à l'hôpital, on lui donne une étiquette avec un numéro, il est informatisé et tout est organisé comme ça. Les patients arrivaient, on n'avait plus d'informatique, on n'avait pas d'identité, donc il fallait numéroter les patients à la main. Et donc, il fallait se débrouiller sans tout ce qu'on a d'habitude, tout l'attirail. Ouais.
Là, c'est retour au Moyen-Âge.
C'est retour au Moyen-Âge. Et il faut savoir s'organiser avec ça, il faut savoir se retourner, faire avec ses mains, quoi. Et ça a été quelque chose de difficile et qui, même encore aujourd'hui, quand je réfléchis à ce qu'on a pu faire, ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est difficile de se dire comment, dans ces cas-là, on s'organise. Peut-être qu'on aurait beaucoup à apprendre des médecins qui travaillent dans des conditions comme ça, des médecins humanitaires, par exemple, pour essayer d'avoir des plans d'urgence, en fait, à l'hôpital pour fonctionner en cas de disparition de tous nos outils. Parce qu'en fait, on avait aucune conduite à suivre, on a fait avec nos idées qui nous venaient, sans protocole uniformisé, donc chacun faisait à sa sauce, sans communication, et c'est vraiment difficile de s'organiser dans ces conditions.
Ouais, c'est devenu, l'hôpital est devenu vraiment une médecine d'urgence de terrain, comme si vous étiez un dispensaire après une catastrophe, ok.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc c'est, j'imagine que... Et justement, les leçons que vous auriez à tirer de cette expérience pour les gens qui l'ont vécu, c'est-à-dire pour un citoyen, typiquement moi en tant que Marseillais, si demain on est frappé par un cataclysme de ce type-là, on imagine un tsunami ou une grosse tempête, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour se prémunir justement de ces risques, mis à part le fait de se protéger chez soi bien sûr?
Déjà, se protéger chez soi, c'est pas évident.
Ouais, c'est vrai.
Nous, ce qu'on avait fait avec ma colocataire, c'est qu'on avait pris une table. En fait, on s'est inspiré de ce qu'on avait vu dans les films et de ce qu'ils font en Asie, aux États-Unis, sur les tremblements de terre. On a pris une table, on a descendu nos matelas de l'étage et on s'est mis sous la table qu'on avait posée contre un mur porteur avec les matelas sur nos têtes. On avait pris de l'eau et un peu de nourriture avec nous en se disant, si on doit rester coincé dans les décombres quelque temps, il faut qu'on puisse survivre. On avait pris une ceinture pour pouvoir faire un garrot, on s'était mis en basket, ce qui n'était pas anodin là-bas parce qu'on était tout le temps en tong. On s'était mis en basket pour pouvoir courir ou marcher dans les décombres et ça nous a bien servi parce que quand on est sorti de chez nous, il y avait des tôles de partout, des arbres et on était bien contents d'avoir nos baskets parce que le reste de nos affaires était perdu dans les décombres. Et puis, on n'avait probablement pas prévu assez de nourriture. On s'imaginait pas en fait que le cyclone aurait une telle ampleur. On s'imaginait une coupure de courant de 24-48 heures et donc on avait acheté deux boîtes de conserve. Et en fait, finalement, rapidement, on a été vraiment démunis puisqu'on n'avait plus rien à manger, que tous les magasins étaient fermés, que c'est une île qui n'est pas approvisionnée. Donc en fait, on avait vraiment plus de nourriture et plus d'eau.
Ouais,
ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas anticipé.
Donc, d'avoir des packs d'eau et de la nourriture en sécurité.
Des packs d'eau et de la nourriture, c'est ce qu'on voit toujours à la télé, les gens qui se ruent dans les grandes surfaces pour dévaliser les boîtes de conserve. Et en fait, finalement, ça a quand même un peu de sens.
Bon, après, nous, pendant le Covid, c'était le papier cul. Ouais. Donc, apparemment, les gens avaient plus peur de manquer.
Le papier toilette nous a manqué aussi.
Ouais, mais oui, j'imagine. Donc, du coup, ça serait donc d'avoir un stock de survie. En termes de médicaments, j'en profite de ton expérience de médecin. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, dans une trousse de pharmacie à domicile pour, si on se retrouve, par exemple, coupé, comme tu l'as dit, de l'hôpital et pendant 48 heures, on doit tenir, qu'est-ce qu'on doit avoir en priorité? Parce qu'on ne va pas avoir un hôpital chez soi. Mais...
Ouais, je pense que les médicaments, il faut se méfier d'avoir trop de médicaments dont on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je pense notamment aux antibiotiques où il y a quand même... Les médicaments ont tous des effets indésirables et c'est un peu risqué de se faire une trousse de toilette d'urgence dont on va oublier quel médicament est là pourquoi, au risque de se faire du mal sans le vouloir. Surtout qu'on n'a souvent pas vraiment besoin de médicaments dans ces cas-là. Ce qui peut être utile, c'est un peu de quoi se réparer, entre guillemets, des compresses, de quoi faire un bandage, un pansement. Le garrot, c'était quand même quelque chose qui peut être utile en cas de... J'imagine une situation extrême, hein, mais en cas d'arrachement de membres ou quelque chose comme ça.
Si on prend une tôle sur une jambe, quand on est
voilà.
ouvert.
Il y a eu beaucoup de blessés comme ça avec des tôles, avec des saignements massifs. Donc c'est quand même quelque chose qui est utile. Mais les médicaments, c'est vrai qu'il faut se méfier. Ça périme, ça a des effets indésirables.
Donc, d'abord,
et il n'y a rien qui est vraiment très très utile dans ces cas-là.
Donc vraiment, c'est plus des outils, on va dire, pour venir... pour une plaie ou une mais pas de médicaments en soi. Donc vraiment de quoi tenir une plaie, on va dire en tenir une plaie au respect, je sais pas comment le dire, mais ouais,
Ouais, c'est
donc
ça.
de la nourriture, savoir se mettre en sécurité, voilà, c'est tout, et attendre puisque après donc du coup après la catastrophe vous avez eu les premiers blessés, mais est-ce qu'il y a eu des surblessés aussi? Parce que je sais que souvent après les catastrophes la blessure elle arrive pas forcément pendant la catastrophe, mais après quand par exemple on essaie de naviguer entre les décombres en tongs ou ce genre de choses.
On a eu énormément de coupures effectivement de gens qui marchent pieds nus, parce que là-bas les gens marchent beaucoup pieds nus dans les tôles, dans les décombres, donc énormément de blessures. Et là-bas les blessures s'infectent très rapidement du fait de la chaleur, de l'humidité et d'une écologie bactérienne locale qui n'est pas très favorable. Et donc toutes les plaies s'infectaient et rapidement on a été en rupture de stock de médicaments, notamment l'augmentin, qui était un médicament qu'on utilisait dans ces cas-là, parce que la plateforme logistique où étaient stockés tous les médicaments de l'île avait été ravagée par le cyclone. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu dépourvu face à toutes ces plaies surinfectées qu'on ne pouvait plus soigner du fait de la pénurie d'antibiotiques.
Et du coup, comment la situation, elle s'est résolue ou elle s'est pas résolue, peut-être?
Elle n'est pas complètement résolue, il y a toujours d'énormes pénuries, d'autant plus que là la situation s'aggrave parce qu'en fait, du fait du bordel entre guillemets local, il y a de plus en plus de patients, il y a de plus en plus d'immigration qui arrivent aussi, qui profitent un peu entre guillemets de la
Ouais,
situation,
du chaos
voilà, du
général.
chaos général. Donc là, l'hôpital est globalement débordé par cet afflux de patients qui n'est pas vraiment lié au cyclone, mais qui arrive dans les suites. Il y a notamment énormément de naissances. C'est la plus grosse maternité de France, celle de Mamoudzou.
Ouais, c'est ça,
Et là,
exactement.
en ce moment, il y a encore plus d'arrivées de naissances.
Ouais.
Donc, dans un état déjà de base très
Ouais, des...
précaire, avec des pénuries qui, du coup, se creusent
Ouais,
dans ce
donc
contexte.
c'est la situation, le cercle, c'est le cercle vicieux de tout qui s'enclenche. Et justement sur les Comores, est-ce que parce qu'on entend beaucoup moins parler, est-ce que tu sais s'ils ont été touchés aussi fortement que Mayotte?
De ce qu'on a entendu, les Comores ont été moins touchés que Mayotte. Après, voilà, moi, c'est ce qu'on m'a rapporté de Comoriens qui m'ont rapporté ça. J'ai pas été aux Comores, je peux pas vérifier. C'est vrai que c'est vraiment pas loin. L'île d'Anjouan, on la voit de Mayotte,
Ouais,
donc
c'est ça.
c'est à quelques kilomètres, c'est pas très loin. Donc ils ont dû forcément aussi bien ressentir le passage du cyclone. L'œil est quand même passé sur Mayotte, sur Mamoudzou, donc eux, ils étaient un peu plus à distance.
Ok, donc là, le gros du cyclone est passé quand même sur Mayotte, et c'est
Ouais.
Mayotte qui a pris. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous entendent et qui sont démunies face à ce genre de catastrophe. Moi, le premier, souvent, c'est des catastrophes où on ne sait pas comment faire, hein, et je pense à plein d'autres catastrophes naturelles ou humaines. Aujourd'hui, de ton expérience, ou en tout cas de ce que tu as vu, qu'est-ce qu'on peut faire pour, si on veut en tout cas aider ou faire mieux?
Bah déjà, bon, à Mayotte, il y avait beaucoup de corps de métier qui manquaient, notamment, je pense à tout le personnel d'Enedis pour remettre l'électricité, au personnel bon, médical, paramédical, à la police. Donc ça, c'est via les réserves sanitaires et différentes aides de l'État, on a eu rapidement des renforts à ce niveau-là. Et c'est vrai que la personne lambda qui fait pas partie de ces corps de métier ou qui peut pas aller à Mayotte et ça s'entend, peut se demander, ben moi, qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Ce qui manquait énormément à Mayotte, c'était de l'eau, de la nourriture et des produits d'hygiène, en fait. Les gens n'avaient plus rien. Rapidement, il y a des maraudes de la Croix-Rouge qui sont organisées pour aller voir dans les bangas ce dont les gens avaient besoin, d'autant plus que ce n'est pas des gens qui vont spécialement se déplacer et aller demander de l'aide ailleurs. Souvent, ils restent sur place et ils se débrouillent parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Et en fait, les gens se jetaient sur les couches pour bébés, les serviettes hygiéniques, un peu de nourriture, vraiment des choses qu'on ne peut plus retrouver dans les magasins. Et donc, quelque part, aider les associations qui font ça, envoyer de l'argent, ou peut-être par des associations, des colis type colis alimentaires, comme un peu la banque alimentaire, quoi. C'est vraiment ce que les gens avaient besoin sur place.
Donc l'hygiène et l'alimentaire en
Ouais.
priorité, et les associations, donc Croix-Rouge je n'ai pas d'autres noms en tête, hein.
Et ben c'est oui, alors je peux pas les citer parce que je les ai pas
Ouais,
là, mais
mais bon.
il y a quelques trucs officiels qui ont été diffusés pour aider Mayotte et
Ok, bah
c'est ce que les gens ont vraiment besoin.
On essaiera de mettre le lien sur le podcast. En tout cas, merci Charlotte pour le témoignage et pour le retour d'expérience. On te souhaite d'autres aventures, mais moins mouvementées que celles que tu as pu vivre. Et excellente journée à toi.
Merci beaucoup.